Eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle Frédéric Geschicht et je suis venu d'Alsace pour tenir un stand ici. Je suis viticulteur. Oh, comme ça, on m'entend fort. Pas trop fort? Ça va pour vous? Et donc, pour vous faire cette conférence qui peut tout à fait prendre forme d'un échange, puisqu'il y a un micro qui devrait circuler pour les questions, les réponses. On n'est pas obligé d'attendre la fin d'un speech qui n'est pas du tout structuré au départ pour poser des questions, mais on peut fonctionner sous la forme d'échange au fur et à mesure. Certains d'entre vous connaissent sans doute déjà la biodynamie, ou au moins vous en avez entendu parler, ou même vous avez déjà suivi des stages, pour certains. Et voilà. Donc le but de cette conférence, c'est de pouvoir vous apporter quelques éléments supplémentaires, de vous présenter ce qu'est la biodynamie, et puis de voir peut-être comment ça peut s'appliquer dans la culture qui me concerne, qui est la viticulture. Et voilà, et donc n'hésitez pas à poser des questions. Est-ce qu'il y a des questions de départ, des présupposés comme ça, sur lesquels on peut partir? Ah. Le micro monte pour poser des questions.
Si, ce n'est que pour la viticulture.
La biodynamie s'applique pas seulement à la viticulture, elle s'applique à l'ensemble du monde agricole.
Pour les jardins aussi, oui.
Aussi bien pour les jardins amateurs que pour le maraîchage en professionnel, que pour les cultures de céréales, la polyculture, l'élevage. La biodynamie touche vraiment l'ensemble du monde agricole. Ouais.
D'accord. Merci.
La biodynamie touche donc toute l'agriculture. Et en fait... Elle a des frères et sœurs, des cousins, qui vont toucher d'autres domaines, comme l'éducation, avec les écoles Waldorf ou les écoles Steiner. Donc là, ça dévoile tout de suite d'où est-ce que ça vient, cette affaire-là. Il y a des parallèles également avec des méthodes de soins, de pédagogie également, de la pédagogie curative, qui touche le handicap, ça touche également le domaine des soins homéopathiques avec les petits granules que vous connaissez sans doute, avec les labos Velleda. Et tout ça, c'est affilié à un seul et même courant qu'on appelle l'anthroposophie, qui a été créé par Rudolf Steiner. Vous avez déjà entendu parler de Rudolf Steiner, Rudy? Qui est un chercheur, un scientifique au départ, d'origine autrichienne, qui a vécu fin du 19e siècle et début du 20e siècle, puisqu'il est mort avant les années 30. Et pour la biodynamie, qui est donc l'application de sa pensée, il a donné le point de départ de cette technique, puisque c'est une technique agricole, avec 8 conférences. Donc il n'a pas fait directement les écrits, mais ces conférences qu'il a données ont été transcrites. Et ces 8 conférences qu'il a données à Koberwitz, qui est un château en Silésie, au fin fond de l'Allemagne perdue, là, qui était encore la Prusse à l'époque, il a donné ces conférences à la demande des agriculteurs allemands, mais également suisses. Donc c'est quelque chose d'assez germanique au départ. Il a donné ses conférences parce que les agriculteurs voulaient lui demander des indications, parce qu'ils constataient déjà à cette époque-là que leur production agricole perdait de leur qualité nutritive principalement. Il constatait déjà en 1924 qu'il y avait une perte de vitalité de l'agriculture. Et donc, il s'est penché sur la question et a donné des éléments de réponse, des éléments très terre-à-terre, des recettes, entre guillemets, mais aussi des directions de recherche et de façon de penser l'agriculture d'une façon un peu autre, on va dire. Je laisse les nouveaux arrivants, installez-vous, il reste 2-3 places. Donc la biodynamie s'inscrit dans le large cadre, comme tout ce qui se passe ici, de l'agriculture biologique. Enfin, ici, pour la foire d'aujourd'hui en tout cas. L'agriculture biologique, ça, vous maîtrisez bien, je pense. Vous qui êtes tous là dans une foire bio. Pas de produits de synthèse, que ce soit pour l'entretien des sols, le traitement des plantes ou des animaux. Ouais. Donc l'absence de produits de synthèse. La biodynamie va aller un peu plus loin, en fait. En bas, il y avait une conférence sur la permaculture, vous en venez sans doute pour certains d'entre vous. Nous, dans la biodynamie, ce qu'on va proposer, c'est une pratique, des méthodes, pour vraiment essayer de vitaliser la vie du sol et la vie de la plante. Pour ce faire, on va utiliser Il y a deux facettes à voir. D'une part, quelque chose dont on parle souvent lorsqu'on parle de la biodynamie, ce sont des préparations biodynamiques. Les préparations biodynamiques, encore une fois, on peut les scinder en deux parties. Des préparations qui vont directement s'utiliser sur les plantes et d'autres préparations qui vont être faites pour un meilleur compostage du fumier. Puisque Rudolf Steiner parle dans ses premières conférences du compostage du fumier, en fait. Pour lui, la terre est vraiment quelque chose qu'il faut soutenir dans sa vitalité. Certaines cultures, comme la vigne, sont pas très gourmandes en matière nutritive, en azote. Azote et autres éléments minéraux. Mais d'autres plantes, comme du maraîchage, se passeraient difficilement de compost ou de fumier. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont agriculteurs, peut-être. Voilà. Donc, ouais, il y a des trucs qui ne poussent pas forcément tout seuls. Hein. On peut continuer sur ces différentes préparations. C'est une porte d'entrée pour expliquer ce que c'est la biodynamie, qui est assez Oui.
Stop.
Une question.
Une question juste pour voir la relation entre Steiner, qui est plutôt connu comme un pédagogue, et la biodynamie. Là, j'ai pas bien compris. Est-ce qu'il est considéré comme un chercheur en pédagogie et qui applique ça à l'agriculture, ou c'est quoi la relation entre Steiner, le pédagogue, ouais, et la biodynamie? Enfin, continuer.
Oui. Steiner, en fait, a cherché dans beaucoup de directions différentes. Il était autant père de la biodynamie, entre guillemets, que pédagogue, que médecin, que chercheur, dans pas mal de domaines comme ça. Et si on peut partir de ce côté-là, de l'œuvre de Steiner globalement, c'est vraiment un courant philosophique, ou un courant de pensée qu'il a créé avec l'anthroposophie, dont les issues dans la réalité sont effectivement la pédagogie pour les écoles Waldorf, la pédagogie curative pour les handicapés, la biodynamie pour l'agriculture, des choses comme ça. Voilà, ouais. Donc c'est vraiment des applications pratiques de la pensée qu'il a pu développer, en fait. C'est des fois pas facile lorsqu'on discute avec des collègues agriculteurs de parler de biodynamie, parce que à la fois on se repose sur des côtés très concrets, donc les préparations, les effets qu'elles peuvent avoir, les résultats tangibles qu'on peut présenter, et l'autre côté de la présentation qui est de dire, mais d'où est-ce qu'il a tiré tout ça, Steiner, quoi ? Et là, de se dire, OK, il a développé une science, mais qui ne rejette pas l'esprit, entre guillemets. Et donc d'appeler ça une science de l'esprit. C'est difficile parfois d'en parler et de le faire comprendre dans un fonctionnement assez terre-à-terre, assez matérialiste, mais néanmoins c'est vraiment quelque chose qui est à défendre pour nous, de se dire que l'esprit est aussi important que la matière. Et que, comme Novalis par exemple le disait, que l'essentiel est invisible pour les yeux. Des choses comme ça en fait. On va beaucoup plus s'attacher au sein de la biodynamie à des forces par exemple qu'à des quantités de matière, à des impulsions qu'à des quantités d'éléments. Ouais. Les préparations en sont un exemple direct. On va laisser arriver les nouveaux arrivants. Installez-vous, je vous en prie. On peut commencer par les préparations qui s'adressent directement à l'élaboration d'un compost. Dans l'idéal, dans la biodynamie, on cherche à avoir un organisme agricole. On peut considérer les choses de façon très analyste par les différents éléments, et en regardant avec un œil scientifique assez actuel les choses, en les décortiquant de plus en plus. Que ce soit une plante avec ses différentes parties, et de regarder jusqu'à l'intérieur de chaque cellule la façon dont les choses fonctionnent. De la même façon pour un animal, de regarder chaque organe, son rôle, de quoi il est composé, de peser, de mesurer. On peut aussi s'attacher à regarder les choses de façon plus globale dans leur fonctionnement, dans leurs liens les uns aux autres, que ce soit les organes pour des animaux, des différents organes des plantes également, mais également d'un point de vue plus vaste, prendre un peu de recul et de voir au sein d'une ferme comment les choses peuvent fonctionner entre la terre qu'on occupe, les différentes plantes qui y sont présentes, qu'on peut modifier ou pas la présence de ces plantes, les animaux qu'on y apporte, qu'on y élève, et le rôle humain du fermier qui gère et qui vit avec tout ça, en fait. Donc, de voir les choses d'une façon un peu plus globale, comment peut fonctionner cet organisme agricole. Et dans cet organisme agricole, Steiner nous parle de ce compostage, donc de tous ces déchets d'éjection, principalement des animaux, principalement de fumier, mais aussi des déchets végétaux, et tout ce qui peut être composté dans les différents types de fermes, puisque le monde est vaste et les fermes sont assez changeantes d'un endroit à l'autre. Il nous apporte des indications, avec ses préparations biodynamiques, de savoir comment améliorer les qualités de son compost. Avec un œil scientifique néanmoins, il va prendre les différents éléments principaux, différents corps chimiques, puisqu'on ne rejette pas pour autant la présence de phosphore, de calcium, de carbone. Et il va donner 5 préparations qui s'adressent directement au compost pour qu'il se fasse le mieux possible. Ces préparations sont assez rigolotes en fait, puisqu'elles vont être chacune composées d'une partie de plante et d'une partie animale qui sont en correspondance et qu'on va laisser maturer ensemble, en fait. Donc chaque année, en biodynamie, sur l'ensemble des surfaces, devraient ou doivent être présentes ces différentes préparations qui s'adressent au compostage. Soit en les mettant dans le compost directement, c'est le cas le plus général, soit par un biais un peu détourné en pulvérisation. Et donc, j'ai du mal à vous les citer toutes par cœur dans leurs détails, mais l'une qui est très marquante pour la plupart des gens, et même pour nous, c'est celle qui s'adresse au processus du calcium, par exemple. Steiner nous indique que pour améliorer le processus du calcium dans le compostage, ce serait pertinent de prendre une partie de plante qui est très riche en calcium, qui est en fait l'écorce d'un chêne. L'écorce va stocker beaucoup de calcium et est une espèce de représentant du calcium végétal. Cette écorce, on va en prélever, on va la broyer assez finement et on va la mettre en contact avec un élément animal qui contient beaucoup de calcium. Peut-être que ça vous vient assez spontanément à l'esprit. Qu'est-ce qui contient beaucoup de calcium? Les coquilles d'huîtres. On pourrait faire ça avec des coquilles d'huîtres, effectivement. Mais les coquilles d'huîtres, c'est un peu petit. La corne, c'est pas tellement du calcium. C'est plus comme les ongles, c'est beaucoup plus riche en silicium. Comme les cheveux et la kératine. On va prendre de l'os, en fait. L'os qui est très riche en calcium. Et on va servir d'un récipient en os. Donc on pourrait prendre un tibia, on pourrait prendre un os de petit doigt, mais ça ne contient pas beaucoup de matière. Et donc pour être très pratique, on va prendre un crâne, qui est finalement l'os le plus contenant, et le remplir de ce broyat d'écorce de chêne. On a le calcium végétal, on a le calcium animal, et on va les laisser maturer ensemble pendant environ 6 mois, pendant toute la période hivernale. On va l'enterrer pour qu'il soit bien tranquille, bien à l'abri, qu'il n'y ait pas de moisissure et tout ça. Et on va utiliser l'année suivante. On va le faire à l'automne, ça, par exemple. Hein. C'est généralement ce qu'on fait. On enterre ces crânes dans un lieu un peu humide pour que ça se fasse. Et l'année suivante, on va utiliser une petite quantité de cette préparation, puisqu'on va appeler ça comme ça maintenant. C'est plus seulement de l'écorce de chêne, c'est de l'écorce de chêne qui a concentré un peu ses facultés. Et mettre cette petite boulette d'écorce de chêne dans le tas de compost. Donc on utilise très peu de matière, c'est vraiment qu'une petite poignée de ça, pour faire composter un fumier qui... un andin, on va les mettre en andin, qui fait la moitié de largeur là, sur 4-5 mètres par exemple. Et on va mettre ces préparations dans le compost, on va les répartir. Et on considère qu'elles vont rayonner dans le compost pour que ce processus se passe au mieux. Des questions par rapport à ça, directement ? Madame. Le chevalier servant apporte le micro.
Juste un petit détail. Oui. Les crânes d'animaux, il faut que ce soit des animaux qui sont élevés dans des bonnes conditions ou qui ont mangé beaucoup de pesticides ?
C'est toujours mieux quand les animaux sont élevés dans de bonnes conditions. On a la chance, pour cette préparation-là, de ne pas avoir de difficulté à se procurer l'organe qu'il faut, à savoir un crâne, puisque tout ce qui est... On essaie de ne pas prendre des chèvres parce qu'elles ont une petite tête. Mais les chevaux, les bovins, ça marche pas mal. Et c'est des organes qu'on peut encore actuellement récupérer assez facilement. Par contre, il y a d'autres organes animaux. Et ouais, généralement, on prend des organes de nos propres fermes, c'est-à-dire qui sont en bio ou en biodynamie, quoi. Il y a d'autres organes qui sont beaucoup plus problématiques depuis l'apparition de la maladie de la vache folle, l'ESB. Puisque les abattoirs ne laissent plus, théoriquement, sortir les abats, tout le système digestif des bovins, et que d'autres préparations, une autre préparation par exemple, se fait avec du pissenlit, qu'on va mettre dans un mésentère de bovins. Le mésentère, c'est la poche qui enveloppe les boyaux, grosso modo. Hein. Et cette préparation-là, c'est beaucoup plus problématique. On arrive pour l'instant, puisque ça n'a pas été ouvertement autorisé, on arrive à continuer de faire ces préparations, mais un petit peu en louvoyant, on va dire, quoi. Chez nous en Alsace, on a la chance d'avoir l'Allemagne à côté, la Suisse pas loin, on arrive à en avoir dans des abattoirs en Allemagne, et puis on les fait circuler en France, quoi. mais théoriquement, c'est médium. On a moyen le droit de faire ça. D'autres questions par rapport à... Oui ?
Moi, j'ai une question par rapport à des produits commerciaux qu'on nous présente comme des activateurs biologiques. Donc, je peux citer des noms de bactériolites, bactériosol, mistar, des choses comme ça, pour activer le compostage. Et je voulais savoir si c'était des préparations, parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais pas, si on me dit que c'est un activateur biologique. Est-ce que c'est des préparations biodynamiques ou pas ? Je ne sais pas.
Je ne sais pas ce que c'est, ces préparations commerciales. Je ne pense pas que ce soit des préparations biodynamiques. Je pense plutôt que ce soit des micro-organismes un peu concentrés, quoi, ouais. C'est vrai que dans un compost, on cherche à avoir une vie la plus intense possible, quoi. La voie prise par la biodynamie, c'est plutôt de s'adresser vraiment à ces processus naturels de décomposition par rapport à ces éléments avec les préparations, ouais. Pour suivre le fil de mon idée, j'en étais à la préparation écorce de chêne et donc au compostage du fumier. Donc, ces préparations, quand on va ressortir les crânes et ressortir l'écorce de chêne, on va en mettre une petite boulette dans l'état de compost. Et on va laisser ça au moins pendant un mois ou deux pour que le compost se mature, entre guillemets. On n'attache pas une très grande importance au fait de retourner un fumier, si certains d'entre vous font du compost, mais plutôt au fait de bien le faire dès le départ, en fait. Dans les aires de compostage un peu industrielles, puisque en tout cas en Alsace, je ne sais pas dans cette région si ça se trouve, ils arrivent à faire du compost très, très élaboré, très fin, mais ils le retournent presque deux fois par jour, quoi. Alors que là, c'est pas du tout le chemin qu'on va prendre. On va beaucoup plus le mettre bien en forme et mettre les préparations et le laisser un peu plus tranquille. Le compost, on va ensuite, une fois que les préparations sont dedans, le couvrir. Veiller à le couvrir, à lui mettre un peu comme une peau, comme une enveloppe. D'une part, en pulvérisant de la valériane dessus, qui est l'une des préparations biodynamiques également. Et d'autre part, en mettant un paillage. La paille, c'est ce qui marche encore le mieux. On peut faire aussi des fois avec certains le font avec du géotextile, mais la paille, c'est pas mal, quoi, pour le mettre à l'abri des intempéries, notamment, quoi. Ensuite, s'il n'y a plus de questions par rapport au compost en lui-même, on peut passer aux deux autres préparations fondamentales dans la biodynamie. Juste une petite chose, par rapport au compost et aux préparations du compost, depuis 2 ans maintenant, on a eu un exemple pas très loin de chez moi, dans une ferme en bio. Chez moi, c'est en Alsace, grosso modo dans les collines sous-vosgiennes, près de Colmar. Donc dans la plaine et le long des collines, il y a du vin. Et on a la chance, juste en faisant 10-15 km au-dessus, de retrouver des élevages, plus en montant dans les Vosges. Tout de suite, on prend de l'altitude. Et il y a des élevages qui sont extensifs, qui sont de montagne, un peu comme ici. Et donc, où les fermiers, c'est surtout des vaches qu'il y a, n'arrivent pas à épandre tout le fumier. Et donc, nous, ça nous arrange bien, parce que ça nous permet, d'une part, d'avoir une coopération avec eux et d'en acheter. Sans que ce soit trop loin, et ils sont pas mal passés en bio, puisqu'il n'y avait pas grand chose à changer, en fait, dans leur façon de cultiver. Et on a eu un bon exemple d'efficacité de nos préparations, puisque là où on cherche le fumier, ils ont une grande mare à lisier, une grande fosse à lisier, ils sont obligés de l'avoir, et des grands tas de fumier, et en mettant les préparations du compost, sans que eux sachent vraiment ce que c'est, nous on est allé les mettre là-dedans, et ils ont constaté d'une part que leur compostage se faisait plus vite, que leur fumier puait moins, mais surtout aussi que leur lisier, un grand problème en Bretagne de dépannage de lisier, le lisier était totalement désodorisé, et donc pas tellement de problèmes de lisier qui pue quand on épand ça, quoi, et qu'il devenait beaucoup plus... beaucoup plus homogène, beaucoup plus fluide également, avec des pailles qui se désagrègent beaucoup plus dedans, beaucoup moins de morceaux. Et donc ils sont devenus fans de ces préparations-là, sans même s'intéresser à la biodynamie, ni à l'anthroposophie, ni à Steiner. Donc c'est vraiment l'exemple par le truc qui marche, quoi, hein. L'entrée dans la biodynamie par la pratique. Les deux autres préparations qui sont forcément utilisées dans toute la culture biodynamique, qui portent des noms de code, les préparations sont numérotées en fait de 500 à 506, 507 même. C'est la 500 et la 501 qu'on va également appeler la bouse de corne et la silice de corne. Ces deux préparations qui sont les plus connues, peut-être que vous en avez entendu parler déjà pour certains d'entre vous. Et alors, c'est quoi cette histoire de bouse, de silice et de corne? Ces deux préparations fondamentales qui vont avoir pour la plante, puisqu'elles s'adressent à la plante, des effets complémentaires. La bouse de corne, on va d'abord décrire ce que c'est. C'est de la bouse de vache. En biodynamie, on fait toujours une petite fixette sur les vaches quand même. On aime bien. C'est un animal très complet et qui a permis le développement de plein de civilisations, de développer la fertilité de beaucoup de terres qui n'auraient même pas été arables sinon. Et donc, on prend de la bouse fraîche. Donc, c'est un peu vert, c'est un peu... ça pue, c'est un peu... on n'en mangerait pas, quoi. Hein. On va la mettre dans une corne de vache, et l'enterrer à une 20-30 cm sous terre. On va enterrer plein de cornes comme ça ensemble, à l'automne, vers la Saint-Michel, puisqu'on a certains repères dans l'année comme ça, de rythme au niveau des saisons, et la laisser pendant toute la période hivernale maturer également, comme les autres préparations. Sauf que là, l'organisme animal qui est choisi, c'est une corne. Alors pourquoi une corne? Pourquoi une vache? Pourquoi de la bouse de vache? Le but de cette préparation, ça va être pour la plante de la pousser à s'enraciner de plus en plus, à aller chercher vraiment en direction du centre de la terre sa substance nutritive, les minéraux qu'il lui faut. Et pour ça, l'utilisation de bouse de vache est la plus adaptée. La vache, en fait, comme beaucoup de ruminants, elle va brouter, pas forcément tout et n'importe quoi, mais elle va, pendant son action de brouter, vraiment décortiquer son paysage, décortiquer toutes les plantes qui sont là, ressentir tout ça, et elle va en profiter en partie seulement. La vache, c'est un animal qui est très généreux. On le voit dans ses formes qui donnent beaucoup de chair, beaucoup de lait. Elle donne beaucoup, et jusque dans ses déjections, elle donne beaucoup de choses encore. Nous, dans nos déjections, on ne donne plus grand-chose. On profite un maximum et on restitue un minimum de choses. La vache, c'est un peu l'inverse. Quand vous regardez une bouse de vache, en fait, elle va encore être un produit qui est très riche, elle va dégrader qu'en partie la plante. Et les plantes, justement, vont être avides de ce que la vache ne va pas garder pour elle. Elle va prendre ce qu'il lui faut pour grandir, pour faire de la viande, pour faire du lait, mais elle ne va pas absorber ce qu'il y a de plus élevant dans la plante, entre guillemets. Et du coup, ce qu'elle rejette, la plante, ça va lui permettre de faire son lien avec la terre. Et en fait, c'est ce phénomène-là qu'on va amplifier en mettant la bouse de vache dans une corne. Et là, on se pose la question, mais pourquoi on met ça dans une corne, quoi? Pourquoi est-ce qu'on ne le laisserait pas vieillir tout simplement dans un pot en terre? On ne le laisserait pas maturer comme ça? Ou pourquoi pas l'utiliser frais? On le met dans une corne, puisqu'on sait, Rudolf Steiner toujours, a essayé de comprendre un petit peu le rôle des différents organes pour l'être humain dans le côté curatif et médical, mais aussi dans les différents types d'animaux. Et la corne, tout comme les sabots apparemment, serait quelque chose qui rejette un petit peu il va dire l'astralité, l'animalité qu'il y a dans la plante, dans la vache, pardon, pour éviter qu'elle ne s'échappe. On tient en biodynamie à ce que les vaches gardent leurs cornes, donc on leur pique seulement au moment de l'abattoir. Et c'est sans doute pas pour rien, ouais. Une vache, quand elle rumine, elle va dégager des gaz, et on s'aperçoit que la rumination des vaches, en fait, se produit mieux chez les vaches qui ont encore leurs cornes par rapport à celles qui ont été écornées. C'est sans doute dans ce rôle-là qu'on va utiliser cette corne pour bonifier, pour amplifier l'effet de la bouse de vache, en fait. Donc, dans la pratique, on met la bouse dans la corne, on met la corne dans de la terre, on la laisse enterrer pendant toute cette période hivernale, et au printemps, d'ailleurs, c'est ce week-end que chez moi ça se fait, et donc je ne suis même pas là pour le faire, puisqu'on fait ça au sein d'un groupe d'agriculteurs. Donc j'ai une petite pensée pour eux. On va déterrer ces cornes et sortir cette bouse de vache qui va plus du tout être malodorante, va plus du tout être verte, mais va ressembler à un terreau noirâtre et qui sent bon le printemps, qui sent bon le frais. On en mangerait presque, sauf que c'est pas fait pour ça. Ensuite, donc dans les deux semaines qui viennent, on va l'utiliser au printemps, au débourrement de la vigne, en ce qui me concerne, mais à peu près pour la même période pour les autres plantes. On va prendre une poignée, à peu près, environ 100-200 grammes par hectare. Un hectare, c'est 100 mètres sur 100 mètres, hein, si c'est un carré, pour ceux qui ne sont pas agriculteurs. Et on va dynamiser ça dans de l'eau. Alors ça, c'est encore une autre question, et ça rejoint le terme de biodynamie. Qu'est-ce que c'est que cette bio, on a bien compris dans la biodynamie ce que c'était. On travaille avec le vivant, on travaille avec avec ce qui n'est pas de synthèse, quoi, hein, ce qui est vraiment vivant. Et dynamie, on va travailler plus avec des forces qu'avec des quantités de matière, comme je vous l'ai dit au départ. On va prendre ces 100 grammes ou 200 grammes de bouse de corne, on va les brasser, on va les mettre dans de l'eau, tiède si possible, parce qu'il s'agit de quelque chose de vivant, qu'il ne s'agit pas de crisper, mais au contraire d'ouvrir. On va prendre de l'eau la plus pure possible. Certains prennent de l'eau directement sous leur nappe phréatique, sous leurs pieds, dans la nappe phréatique s'ils en ont une. Certains préfèrent prendre de l'eau de pluie, en évitant les premiers millimètres, les trois premiers millimètres. Pour ma part, j'ai la chance d'avoir à quelques kilomètres au-dessus de chez moi des sources. Et donc, je prends de l'eau de source. Mais c'est important que l'eau soit pure, parce qu'on va la dynamiser. Et ça, c'est le geste favori de ceux qui font de la biodynamie. C'est de dynamiser, ce truc un peu mystérieux. On va prendre peu de matière et on va pulvériser ça sur 3-4 hectares par dynamisation. On va faire tourner de l'eau, en fait. On va prendre cette eau assez pure, on va mettre cette matière qu'on a élaborée avec des choses qu'on avait finalement sous la main, mais de façon assez précise, assez rigoureuse. On va brasser ça dans de l'eau et on va compter sur la mémoire de l'eau pour retenir cette impulsion de force, cette dynamique de bouse de corne, ce message qu'elle a à faire passer à la plante et au sol d'enracinement. En fait, dans la pratique, on prend un balai, une cuve, soit en cuivre souvent, soit en bois, et on va tourner pendant une heure. On va faire un tourbillon dans un sens. Une fois qu'on aura un joli tourbillon, quelque chose de très organisé, on va briser ce joli tourbillon pour faire un tourbillon dans l'autre sens. Et ça va faire un chaos. On va passer par cette étape de chaos pour faire un tourbillon organisé dans l'autre sens, ainsi de suite pendant une heure. Au début, c'est un peu sport, mais finalement, une heure, ça passe relativement vite. Et c'est tout à fait faisable humainement. Ça peut se faire également de façon mécanique. Il y a des dynamiseurs qui peuvent se fabriquer, qui peuvent se trouver, qui ont des pales, pareil, qui vont tourner, qui vont brasser pendant une heure dans un sens. Pardon, pendant une heure, une fois dans un sens, en faisant un chaos, en brisant et en, dans l'autre sens. Et donc, il faut bien arriver à visualiser ce qui se passe pendant qu'on fait un tourbillon, en fait, avec de l'eau. On part de l'eau qui est immobile et on va la mettre en mouvement. Je continue de vous parler de ça parce que c'est un peu technique et c'est un peu... on se demande pourquoi, quoi, on fait ça. En fait, une fois qu'on l'a fait, une fois qu'on observe ce qui se passe dans un tourbillon, on comprend mieux. Je vais essayer de vous le décrire. J'ai pas trop de support pour le faire, mais avec les mots, ça peut peut-être aller. Donc, vous faites tourner de l'eau en rond. Donc, le truc est rond, hein, c'est pas dans un baquet carré. Hein, ça tourne pas sinon. On va faire un peu de physique. L'eau, elle va faire le même nombre de tours minutes, pour les messieurs qui s'intéressent au moteur, au milieu qu'au bord. Par contre, la vitesse linéaire ne va pas du tout être la même. Au milieu, ça va faire des petits ronds, ça ne va pas faire beaucoup de kilomètres heure, mais ça va faire le même nombre de tours minutes. Et au bord, ça va faire beaucoup plus de kilomètres heure, mais ça va faire le même nombre de tours minutes. Et donc, il y a une phase d'accélération. Et en fait, l'eau va se fragmenter, va faire des feuillets, puisqu'elle ne va pas avoir la même vitesse à l'extérieur, beaucoup plus rapide qu'à l'intérieur. Et ça va faire plein de feuillets qui vont frotter les uns contre les autres. En fait, l'eau va, tout en restant liquide, créer des couches successives. Et plus on regarde de près, et parfois on fait l'expérience avec un bocal en verre sur certains salons comme ça pour montrer ce que c'est la dynamisation, on tourne l'eau, on met une petite goutte d'encre, et on voit vraiment effectivement des feuillets qui se créent avec les différentes couches d'encre qui se colorent au fur et à mesure. Donc en fait, pendant cette dynamisation, c'est faire frotter de l'eau contre de l'eau, dans un sens, d'organiser vraiment ce truc très structuré. Et puis une fois que ça existe, une fois que c'est bien joli, on le casse, et là c'est comme vraiment une ébullition, une petite tornade. On crée quelque chose de complètement déstructuré, et on va refaire la même chose dans l'autre sens. Donc ce geste de dynamisation, pour nous, il est très important. Et ça va permettre de diffuser et de pouvoir pulvériser tout de suite après les préparations sur le sol, sur les plantes principalement. Est-ce que pour l'instant, il y a des questions ? Le micro.
C'est la quantité d'eau que vous mettez avec cette corne.
Alors... Les dynamisations, chez moi, on dynamise généralement environ 90 litres d'eau. 90-100 litres d'eau pour 3 hectares. Ouais. Quantité de matière, on va prendre à peu près 30 litres d'eau par hectare. Donc, quantité de matière 100 grammes, entre 100 et 200 grammes, et quantité d'eau à peu près 30-35 litres pour 1 hectare. Sachant que je prépare chaque fois pour environ 3 hectares. On peut préparer pour 5 hectares, par exemple. Mais de remuer 150 litres d'eau, 200 litres d'eau, à la main, c'est plus difficile. Après, avec un dynamiseur, un truc mécanique, ça va, quoi. Mais il faut toujours faire ça en fonction de ses moyens techniques, en fait. Puisque les préparations doivent vraiment être pulvérisées tout de suite, immédiatement après le brassage. On ne peut pas attendre partir avec son tracteur ou avec son pulvée à dos et de revenir 3-4 heures après pour prendre le reste. On va refaire une nouvelle dynamisation toute fraîche dans ce cas-là. Oui.
Est-ce qu'il faut remuer pendant une heure aussi ou est-ce que si c'est des petites quantités, c'est peut-être...
Alors, je vais juste répéter le début de la question parce que c'est pour l'enregistrement que c'est important. La quantité et le temps de dynamisation pour des jardiniers, pour des petites surfaces, le temps va rester le même en fait. Ça paraît long, une heure. Hein. Mais en fait, c'est quelque chose d'assez agréable. On n'est peut-être pas tout seul quand on fait ça, c'est quelque chose d'assez... c'est un moment assez fort, on aime bien, c'est relax, ça va. Et pour la bouse de corne, on va faire ça par exemple relativement en fin de journée. Donc c'est plutôt un moment où les forces descendent, où c'est plus enracinant. Et pour les jardins, il faut prendre un seau. Rudolf Steiner a montré ça d'abord pour des petites quantités, en prenant un seau, et on peut remuer à la main en fait. Et quand on le fait à la main, on se rend compte, en fait, au fur et à mesure, que l'eau devient plus malléable, plus souple. C'est bizarre à dire, hein. L'eau elle est pas dure, mais elle est toujours souple. Mais elle devient un peu plus fluide au fur et à mesure. C'est assez rigolo. Et donc pour les jardiniers, pareil, on met moins de quantité, on met moins d'eau. Par contre, on utilise un petit récipient, rond quand même, si possible pas en plastique, donc soit du bois, soit du grès. Chez nous, on a des magnifiques pots en grès en Alsace pour mettre la choucroute. Et donc on tourne pendant une heure. C'est important de garder l'heure, ce rythme d'une heure en fait, ouais. On passe à l'autre préparation. Donc là, on a vu la 500, bouse de corne, qui est très enracinante pour la plante. La plante qui va aller chercher à manger dans le sol. On peut voir la deuxième préparation fondamentale en biodynamique, qui est la 501, la suivante, qu'on appelle également la silice de corne, et qui, elle, va beaucoup plus s'adresser à la partie aérienne de la plante, aux feuilles, à la partie qui monte vers le ciel, justement pour l'ouvrir un maximum à toute cette influence qui vient d'en haut. D'une part la lumière, mais aussi tout le reste. Parce que la lumière, c'est pas forcément que des photons, c'est pas forcément que le soleil, quoi. Ce qu'il y a au-dessus de notre tête. On y reviendra plus tard. Juste un petit mot par rapport à la silice de corne. Le principe est un petit peu le même. On utilise une corne pour la même raison. Par contre, la silice, c'est un peu l'opposé, ouais, de la bouse de vache. La bouse de vache, ouais, c'est un produit sombre, ça s'adresse à ce qu'il y a dans la terre. La silice, ça va être vraiment l'inverse. La silice qu'on va prendre, c'est tout simplement du quartz broyé. J'aurais pu en emmener, c'était pas beaucoup plus lourd dans le camion, pour vous les montrer. Vous avez tous déjà vu des cristaux de quartz. On essaye d'en choisir des bien transparents, des bien lumineux, en fait. C'est un processus qui fait beaucoup appel à la lumière. La silice, pour faire une parenthèse sur cet élément, l'élément c'est le silicium, hein. Après la silice c'est la SiO2, c'est la molécule. Et on va la retrouver dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses assez importantes sur Terre. Déjà dans la croûte terrestre. La croûte terrestre est composée quasiment à 70% de silicium. On va retrouver ce silicium également dans les argiles, des silicates, des différentes sortes de silicates. Après, dans la technologie, le silicium, voilà, il y a Silicon Valley, c'est ça ? Aux États-Unis, enfin, c'est quelque chose, c'est un produit très particulier, la silice. Et donc, dans le quartz, cette roche qui naît directement de l'activité volcanique, qui est une roche primaire, donc, qui n'est pas repassée par différentes étapes de métamorphiques ou sédimentaires. Elle va être directement issue de cette chaleur. Et on va la retrouver, les quartz, on les retrouve rarement dans les bassins, dans les plaines, dans les trucs alluviaux. Ou alors sous forme dégradée, sous forme de sable. Mais plutôt, on les trouve plutôt en haute montagne. Et en ce qui concerne celle qu'on utilise, on va la chercher les cristaux. Et c'est toujours un chouette moment en Haute-Maurienne, près de là où il y a du Beaufort, par là-bas, dans les Alpes. Et on récolte des quartz les plus transparents possibles. On arrive quand même en une journée à en cueillir à peu près une soixantaine, 60, 70 kilos. Il faut être plusieurs. Hein. Et puis un bon week-end de marche, c'est pas mal. Ensuite, ces quartz, ils vont être broyés. On pourrait très bien prendre aussi du quartz industriel, puisque de polissage dans l'industrie, ça s'utilise pas mal pour polir des trucs, voilà. Mais on préfère prendre des quartz vraiment entiers et de les broyer ensuite. Toute la difficulté, c'est de les broyer, puisque le quartz, c'est l'une des matières les plus dures, à part le diamant. Et donc, c'est pas facile. Mais il y a des trucs. En le pilonnant avec du fer, pas de l'acier, mais du fer, pour pouvoir aimanter, pour enlever les particules, pour que le quartz reste très pur, et de le faire tourner ensuite le faire tourner pendant 3-4 jours avec des billes de céramique, en fait. C'est un céramiste qui nous fait ça. Et lui, pour broyer ses kaolins, il utilise ça, et c'est pareil. On arrive à broyer du quartz de cette façon-là. Et donc, pareil, on va le mettre dans une corne, on va l'enterrer, mais uniquement pendant la période estivale, pendant l'été, à l'inverse de la bouse de corne, et on va en utiliser encore moins à l'hectare. Pour la silice de corne, on va utiliser l'équivalent d'une cuillère à café, grosso modo 4 grammes, pour un hectare. Donc un hectare, toujours 100 mètres sur 100 mètres, 4 grammes, c'est vraiment pas grand-chose, mais une fois dynamisé sur le même procédé pendant une heure en faisant des tourbillons dans un sens, des tourbillons dans l'autre, on va pulvériser ça sur les plantes et il y a vraiment un effet qui se voit sur les plantes. Pour les vignes notamment, on voit vraiment avant et après pulvérisation les feuilles qui se dirigent plus vers la lumière, qui cherchent, qui font beaucoup plus, qui se redressent, qui font beaucoup plus une forme de parabole plutôt que d'être plus à plat. C'est assez étonnant, ouais. On est assez proche de l'utilisation médicale de l'homéopathie, hein, dans le principe, ouais.